Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, j'échange avec Florence Herry, infirmière de formation et cofondatrice de la start-up Libero. Fondée en 2017, Libero est rapidement devenue la première plateforme d'accompagnement pour l'organisation des soins et de la santé à domicile pour tout type de patients et proches aidants. En quelques clics seulement, Libero permet d'organiser l'intégralité de ses soins, de la recherche de professionnels de santé à la livraison de matériel médical et de médicaments, et ce jusqu'à la réservation d'un transport conventionné ou d'un service à la personne. La plateforme compte à ce jour plus de 18 000 professionnels de santé et est utilisée par plus de 110 000 patients en France et a reçu des dizaines de distinctions et trophées pour son innovation. Au cours de cette discussion, Florence revient sur son aventure entrepreneuriale, de ses débuts dans l'univers startup alors qu'elle était infirmière, à ses challenges actuels dans le développement de Libero. Elle donne notamment des conseils pour décrocher ses premiers contrats, pour développer une solution digitale et pour structurer son entreprise au fur et à mesure qu'elle grossit. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé. Et avant de commencer l'épisode, je voudrais vous inviter surtout à mettre un maximum d'étoiles si vous écoutez sur Apple Podcast ou à surtout me faire des retours parce que c'est ce qui me motive à continuer. Et là, on vient de passer la barre des 50 évaluations sur Apple Podcast. Donc c'est super cool. Merci, continuez et surtout continuez à écouter le podcast. À bientôt. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Herry, cofondatrice de la startup Libero. Salut Florence, ça va ?
Bonjour Mathis, ça va ?
Nickel, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors aujourd'hui, on va passer 45 minutes ensemble à revenir sur toi, ta startup et tout simplement comment tu veux changer la santé à travers ton projet, comment tu t'es lancé dans cette aventure, comment tu la mènes et puis les challenges que tu rencontres. Ça te va ?
C'est parfait.
Bah super. Alors moi, je vais te demander de te présenter, mais en partant vraiment, tu vois, de la base, de l'environnement dans lequel tu as grandi, et puis nous donner un peu des clés pour comprendre comment tu es arrivé dans le milieu de la santé. Est-ce que c'est via ta famille ou est-ce que c'est quelque chose complètement personnel ?
Alors, la genèse de l'entrepreneuriat dans la santé. Moi, je suis bretonne d'origine. J'ai fait mes études en Bretagne et j'ai toujours voulu travailler dans la santé, notamment dans les années 90 où il y avait beaucoup d'épisodes liés au sida et à toutes les infections dans le monde où finalement à la télé tout était diffusé de manière assez crue. Depuis toute petite, je me suis dit que je voulais vraiment accompagner des personnes qui étaient malades et qui avaient des besoins en soins. Donc, depuis toute petite, j'ai voulu m'orienter vers les métiers de la santé. J'ai fait une première année de fac de médecine à Rennes, qui finalement n'a pas abouti, mais comme beaucoup d'autres. Et puis finalement, parce que surtout, je voulais me concentrer sur l'action, sur l'opérationnel, la mise en place rapide de mes compétences. Et donc, j'ai fait une école d'infirmière ensuite à Paris, à l'IFSI de Bichat. IFSI, ça veut dire Institut de formation en soins infirmiers. Et donc là, tout de suite dans le grand bain, dans les hôpitaux de la PHP, qui m'ont permis du coup de bien commencer ma carrière d'infirmière. Donc, j'ai travaillé ensuite 3 ans et demi à la PHP, notamment à l'hôpital Saint-Louis en hématologie, et à l'Institut Curie en oncologie médicale, donc des patients des prises en charge très complexes,
très lourdes. Spécialisés dans le cancer du coup
En effet, c'était assez marquant. Mmh. Ça m'a beaucoup appris. De ces expériences-là, qui m'ont permis de comprendre un petit peu comment fonctionnait le système de soins hospitaliers, j'ai aussi travaillé un petit peu à domicile, ce qui m'a pu me permettre de voir comment se passait l'expérience de professionnel de santé au plus près des patients dans leur environnement. J'ai identifié des points faibles dans les parcours de soins des patients. Et c'est pour ça que j'ai cofondé par la suite Libero.
Ok, on va en parler un peu, on va rentrer plus en détail après sur ce besoin. Toi, en tant qu'étudiante et puis après, voilà, infirmière, comment tu te définis, c'est quoi un petit peu tes traits de caractère, tu vois, pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es en tant qu'entrepreneuse par la suite? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait de base, l'entrepreneuriat? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui avaient déjà créé voilà, des sociétés qui avait, je sais pas, travaillé dans l'innovation, dans le digital, ou est-ce que voilà, tu venais d'un milieu complètement différent de celui dans lequel tu évolues maintenant avec Libero?
Alors en effet, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout en lien avec la santé. Par contre, ce qui m'a permis d'une part de pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat après avoir travaillé dans les milieux de soins, c'est surtout parce que je suis entourée depuis très longtemps d'amis et de connaissances qui font tout à fait autre chose que de la santé, notamment qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait du droit, journalisme, bref, une toute autre sphère. Et donc forcément, quand on est en soirée ou quand on échange avec des amis ou des connaissances qui ne sont pas du milieu de la santé, forcément on échange d'autres choses. C'est très intéressant et très enrichissant aussi de pouvoir mêler les deux, entre l'expérience personnelle et l'expérience des autres sur le terrain. Donc, c'est aussi ça qui m'a aidée à prendre de la hauteur sur le milieu de la santé et de savoir qu'est-ce que je pouvais faire finalement de différent et de mieux sur le terrain.
Et tu n'avais jamais mené de projet, je ne sais pas, associatif ou quelque chose peut-être lié à la santé, mais on va dire plus côté entrepreneurial que ton travail actuel?
Alors, non, c'est vrai qu'initialement, j'avais vraiment en tête de vouloir travailler dans la santé depuis très longtemps, puisque finalement, c'est vrai que j'ai dans mes traits de caractère que tu mentionnais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance, enfin de ma part, je l'espère en tout cas, et c'est ce que j'essaie de faire, donc beaucoup de bienveillance, l'aspect altruiste et l'investissement, c'est vraiment des choses qui me définissent. Et c'est vrai que du coup, la santé, c'est parfait pour ça, parce qu'il y a une espèce de jouissance de s'investir pour rendre mieux et en meilleure santé un patient. Et surtout, en fait, on a la reconnaissance dans les yeux des gens.
Ouais.
Donc ça, c'est quelque chose que je retrouve pas forcément aujourd'hui, mais d'une autre manière. Mais ça, c'est une des plus grandes forces de ces métiers-là. C'est vraiment que la reconnaissance, elle est peut-être pas dans le salaire à la fin du mois, mais au moins tous les jours, c'est de l'humain et au quotidien. Donc, c'est pour ça que finalement, on s'investit tellement en tant que professionnel de santé. En tout cas, moi, je mettais beaucoup d'énergie et d'investissement dans mon métier, que au final, c'est ça qui m'a permis aussi de voir qu'est-ce qui manquait ou pas. Mais je n'ai pas été dans des associations par ailleurs. Étant jeune, je me suis très investie plutôt dans. J'ai travaillé dans des EHPAD ou j'ai travaillé dans des maisons de retraite. Mais sinon, non. Okay.
Non, c'est vraiment intéressant de voir que on peut venir du monde vraiment de la santé en tant que tel sans avoir aucun lien avec l'entrepreneuriat ou le commerce et puis se retrouver à cofonder une start-up. Moi, ça me fascine. Pour comprendre un peu donc comment est venue l'idée de Libero ou si ça a changé, si vous avez évolué. Toi, donc, tu nous as dit que c'était quand tu étais pendant tes visites à domicile que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin d'aller plus loin. Concrètement, selon toi, qu'est-ce qui manquait à l'époque quand tu allais rendre visite à ces patients?
Alors, au-delà du domicile, c'était vraiment aussi à l'hôpital, hein, la sortie. Vraiment, c'est là où j'ai de ces expériences, en plus au sein des hôpitaux de la paix, qui sont tout de même des hôpitaux où il y a beaucoup, beaucoup de typologies de patients différents. Hein, on est sur l'Île-de-France, un territoire quand même assez diversifié. Et c'est essentiellement à l'hôpital que je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme problème à la sortie, notamment parce que parfois il y a des patients qui sortaient d'hospitalisation puisqu'il n'y avait plus de soins nécessaires à faire à l'hôpital, mais en fait qui se sentaient complètement perdus parce que finalement ils n'avaient pas de relais de ville. Et de l'autre côté, quand j'ai travaillé à domicile, C'est vrai que quand les patients sortent et qu'ils ont besoin de soins à domicile, les infirmiers ou les kinés ou même d'autres professionnels de santé se retrouvent à récupérer des patients qui sont sortis de l'hôpital en étant un petit peu lâchés dans la nature. Donc, ce n'est pas non plus très efficient en termes de prise en charge de patients. Et c'est, voilà, j'avais identifié d'autres pain points dans le parcours de soins, mais celui-là avait vraiment attiré mon attention et paraissait être un axe intéressant à développer sur les enjeux d'hospitalisation et les enjeux de parcours santé des patients.
Ok. Et donc, pour comprendre, toi, tu te rends compte qu'il y a un besoin, mais étant donné que tu n'as aucune base d'entrepreneuriat, bon, à part des amis, qu'est-ce qui fait que, voilà, à un moment, tu te dis, en fait, je suis la bonne personne, ou voilà, est-ce qu'il y a une rencontre avec quelqu'un, avec ton associé actuel, qui a fait que vous êtes dit, il faut se lancer, ou est-ce que, je sais pas, il y a eu un truc à un moment qui t'a fait te lancer?
Il y a deux choses. Le premier, c'est que même si j'étais encore très jeune, hein, quand je me suis rendu compte que je voulais faire un petit peu autre chose que le soin, parce que on le voit bien même maintenant avec la crise sanitaire, les infirmiers sont, et même les médecins, hein, sont sursollicités dans les hôpitaux, ils n'ont pas de congés. Enfin, c'est même pas de congés, c'est pas un problème, mais c'est juste se reposer. Parce qu'en fait, quand on soigne des patients, quand on sort de l'hôpital, on pense toujours à ces patients. C'est pas comme si on ferme son ordi et on va boire un verre. C'est, voilà, il y a son patient, il est en train d'être perfusé. Est-ce qu'il va cette nuit? Est-ce que je le reverrai demain? Enfin, il y a plein de. C'est très prenant, en fait. Quand on est très investi, globalement, comme le sont tous les professionnels de santé, c'est hyper prenant. Donc, il y a aussi ce truc de se dire, OK, je suis jeune, j'ai envie de voir un petit peu plein de choses. Prenons un petit peu de recul, voyons ce qu'on peut faire autrement. Ne pas être trop aussi la tête dans le guidon, tant que le soin, voyons qu'est-ce qu'on peut changer. Ça, c'était un vrai mindset de ma part qui est venu naturellement, donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est vrai que depuis quelques mois avant, j'en avais déjà discuté avec quelques amis de faire autre chose que du soin pur et dur. Et c'est vrai que j'ai cofondé du coup avec Jean-Christophe, que je connais depuis une dizaine d'années, que j'ai rencontré par une amie commune qui a fait une école de commerce, qui a fait de la finance, rien à voir avec mon parcours, et qui lui justement avait une vision beaucoup plus, qui a travaillé aussi pour des startups, donc il avait une vision très 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 entrepreneuriale, très gestion, très... voilà, business plan, modèle économique, et qui avait vraiment un attrait pour le milieu de la santé. Et donc, on s'est dit, bon, autant lancer quelque chose. Moi, je connais le terrain, je peux aller voir les besoins. Lui, il connaissait la pratique entrepreneuriale. Enfin, on connaissait, en tout cas, avait des certaines compétences dedans. Donc, voilà, au final, ça s'est fait assez naturellement. Mais au moment où de dire, on va déposer... C'est marrant parce que je me souviens de quand j'ai déposé les documents pour créer la société. Ça, aujourd'hui, ça me paraît tellement loin et en même temps, c'était hier. C'est des papiers que tu déposes pour créer ta société, mais ça déclenche quelque chose, je trouve, parce que tu es président.
Ouais, c'est comme un engagement, de toute façon.
C'est un engagement que tu te donnes à toi-même, en fait. C'est que tu te dis, tu vas déposer tu crées une société.
Ouais.
Alors, est-ce qu'elle sera vide? Est-ce que c'est un coquille d'œuf? Ou est-ce que tu vas en faire quelque chose de grand? C'est à toi de le faire après.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Vous en aviez déjà parlé. Est-ce que vous avez fait une sorte d'étude de marché? Vous avez identifié quelle était la demande, etc. Et puis, envisagé une solution, fait un premier POC, je ne sais pas, une plateforme un peu dégueu, avant même de déposer le nom de la société et de vous lancer? Ou est-ce que c'était vraiment... On sent qu'il y a un truc et on y va, on fonce, on verra ce qui pourra, quoi.
Alors oui, effectivement, on le pouvait à l'époque là, de rencontrer des gens, les meetings, les start-up week-ends, les choses. Donc on a fait un start-up week-end. On a fait plusieurs d'ailleurs, hein, sur différentes thématiques pour comprendre aussi tout ce qui était de design thinking, des choses qu'on ne connaissait pas, ni Jean-Christophe ni moi-même. Et puis c'est là qu'on a commencé à rencontrer aussi plusieurs personnes. C'est tout un réseau, en fait. Finalement, c'est là où j'ai découvert que tu ne peux pas faire ta boîte tout seul. Enfin, c'est une question de réseau, parce que tu rencontres une personne qui va adorer ton projet et du coup qui va vouloir t'aider, donc qui va te mettre en relation avec d'autres personnes qui sont très intéressantes sur leurs compétences, sur leur portefeuille, sur leur réseau eux-mêmes. Et en fait, c'est un engrenage et positif qui se met en place à partir du moment où toi-même tu portes le projet. Et ça s'est fait vraiment grâce à des rencontres, effectivement, comme tu dis, hein, des rencontres avec d'autres start-upers, des gens qui ont réussi ou des gens qui ont tenté. Donc vraiment des échanges. Donc ça prend du temps, c'est sûr. Ça nécessite beaucoup de temps avant de se poser devant son ordi et d'y aller, parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Oui, on a fait une étude de marché. Alors, difficile dans notre thématique, parce que les soins à domicile, c'est pas quelque chose qui est, de manière générale, qui avait été déjà bien identifié. Les médecins, l'hôpital, les soins tout court, oui, mais la santé à domicile, c'est un peu particulier. C'est quelque chose qui avait été laissé un peu de côté. Donc, on a essayé de creuser, d'avoir plus d'informations. On a fait beaucoup d'interviews d'hôpitaux, de professionnels de santé. Et puis, ben, à un moment donné, voilà, on a fait des croquis. D'ailleurs, j'avais fait des croquis au tout début, moi-même. Heureusement que ça a bien évolué et que j'ai une équipe tech maintenant et produit qui gère tout ça. Mais voilà, on a fait une première plateforme. On a fait un POC, effectivement, dans un établissement de santé. On a testé. On était 3 au début. Après, on était 4. Après, on était 10. Après, on était 20. Et maintenant, on est près d'une trentaine presque. Ouais. Donc, oui, c'est...
Et ce premier établissement de santé, c'était où? C'était quoi? Quelle était la taille, tu vois, pour comprendre si là, demain, un entrepreneur a envie de se lancer, a une idée, comment il va aller démarcher ce premier établissement qui va potentiellement lui ouvrir la porte à plein d'autres contrats?
Alors, pareil, là, c'était dans notre réseau. Encore une fois, on a eu de la chance d'échanger avec d'autres entrepreneurs. C'est grâce notamment... un start-upper qui s'appelle Ubervio, qui est le cofondateur de la solution Maïla, avec qui on avait échangé sur notre vision de la santé et qui trouvait notre solution intéressante. Et du coup, on a testé dans une clinique à Lyon, parce que lui, il est basé à Lyon. Il nous a dit, il y a une clinique qui est quand même très ouverte pour tester des choses, donc si vous êtes intéressé. Donc, on a pu tester notre solution donc, dans une clinique pendant plusieurs semaines, ce qui nous a permis d'identifier les vrais besoins patients, l'expérience utilisateur. Alors, au début, c'est vrai qu'on n'avait pas on avait un tech externe. On était tous les deux du coup avec Jean-Christophe, et du coup, on a identifié les premiers besoins. Et quand on a fini ce POC là, on a essayé de recaler ça au niveau vraiment technique. Après, il y a notre première CTO qui est arrivée, c'est une femme, et qui a repris ces éléments-là. On a commencé à vraiment développer techniquement, trois mois après, l'outil. Et on a sorti l'outil, finalement, en 7 mois, quelque chose comme ça. Après,
tu peux nous expliquer un petit peu quelles étaient les premières fonctions et à quels besoins vous vouliez répondre à la base?
Oui. Alors, au tout début donc de Libero, l'idée c'était vraiment, c'était un peu caricatural, mais les gens nous appelaient le Doctolib des soins à domicile. Au moins, on voit ce que c'est. Mais donc, au début, c'était vraiment de faciliter la mise en relation entre un patient et un professionnel de santé qui exerce à domicile, sous un modèle de mise en relation, donc un modèle plateforme. L'idée, c'est que le patient, il a un besoin, il rentre son besoin sur un formulaire, une interface, et en fonction de son besoin, on lui présente les professionnels de santé qui peuvent répondre à son besoin et qui peuvent se déplacer à son domicile. Donc, nous avons mis en place donc, une première plateforme très simple, mais qui n'était pas très adaptée, puisqu'il n'y avait pas forcément d'application côté professionnel de santé, donc ça, c'était en 2016, hein. lors de notre POC. Et c'était des SMS. Donc, c'était des SMS avec un lien plus ou moins sécurisé. Donc, heureusement qu'on a encadré ce POC pour justement que toutes les données soient vraiment hébergées à un même endroit. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on a identifié toutes les possibilités et fonctionnalités qu'on devait ajouter, tout ce qui avait marché, tout ce qui n'avait pas fonctionné. Et on a, pendant 5-6 mois, tout mis en place l'architecture qui permette d'avoir toutes les données de manière agrégée sur notre plateforme, une expérience utilisateur-patient plus fluide pour envoyer sa demande de soins, et surtout aussi une expérience utilisateur professionnelle qui permet d'être cohérente avec le besoin du pro. C'est-à-dire, avant, il recevait un SMS, on a développé une application en quelques semaines qui ont permis du coup aux infirmiers de télécharger une application et de recevoir les demandes de soins de manière sécurisée sur leur application. Donc ça, voilà, c'était les tout débuts de Libéraux, sur libéraux.fr.
Et donc ça, c'était votre premier segment, on va dire, d'attaque. Oui. Ensuite, si on avance, moi je sais que ça a pas mal évolué, que maintenant il y a beaucoup plus de solutions et de, on va dire, de cibles pour Libéraux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de vous, comment vous avez géré ce côté, tu vois, c'est l'œuf et la poule, ou la poule et l'œuf, je sais pas, enfin bref, c'est la même problématique pour toutes les plateformes où il faut à la fois des professionnels de santé et à la fois des patients qui vont avoir besoin de soins. Quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous vous êtes dit, OK, nous on va focus sur un de ces deux aspects, ou est-ce que vous vous êtes dit, on fait tout ensemble, on monte tout ensemble? C'était quoi l'approche?
Alors, déjà au début, on avait un modèle économique qui est différent de celui qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on faisait payer on faisait payer les professionnels de santé pour s'inscrire à Libéraux Pro, une interface pour les. Comme Doctolib ou d'autres acteurs à ce moment-là qui avaient un modèle un peu en SaaS, mais nous, on n'avions pas d'agenda. Nous, c'était vraiment une application mobile qui permettait de recevoir des demandes de soins qualifiées.
Donc, c'était un frais mensuel ou par, c'était par consultation?
Oui, non, on ne prenait pas par consultation ou par visite, c'était un abonnement mensuel qui avait été identifié. Voire, pour ceux qui le souhaitaient, un abonnement annuel. Et en fait, au fur et à mesure de ce qu'on se rendait compte, ce que nous disaient les professionnels de santé, en fait, ils nous disaient, mais attendez, je paye X par mois, donc il me faut X patients par mois. Et au fur et à mesure, dans le mindset, dans la manière dont on veut et dont je voulais créer Libéraux, c'était pas d'être une bourse à soins, c'était pas d'être une bourse à patients, c'était d'accompagner les patients. Parce que moi, je viens de l'hôpital, donc je vois le besoin. Et ce n'était pas juste de nourrir des professionnels de santé pour leur donner du business.
Là, tu es en train de tacler un peu de Doctolib d'une certaine manière, quoi.
Ah non, parce que Doctolib, c'est un outil. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas la même chose, parce que l'outil, je comprends tout.
Oui, ce n'est pas eux qui apportent les patients, c'est ça que tu veux dire.
Si, d'une certaine manière, si, c'est ce qu'ils ont fait. Je suppose que les médecins ont dû poser cette question aussi à Doctolib au début. Mais Doctolib, dans tous les cas, il disait quoi ? Il disait qu'ils vendent un outil, et ce qui est tout à fait honorable, parce que c'est un outil qui permet de planifier le quotidien d'un médecin.
Alors et qui booste leur visibilité également.
Tout à fait. Ils font les deux en un. Ouais. Bah, c'est pourquoi ils ont très, très bien réussi. Hein. Ils ont réussi à la fois à donner un outil et à remplir cet outil. Donc, c'était d'autant plus intéressant pour les médecins. Non, je ne tacle pas du tout Doctolib. Justement, je trouve que c'est une super manière d'avoir abordé un marché qui n'existait pas avant. Et nous, on est arrivés après. Donc, et encore une fois, nous, l'objectif, ce n'était pas d'être un Doctolib pour les soins à domicile. Moi, ma volonté, c'était d'accompagner les patients dans l'organisation de leurs soins. Donc là, je ne suis pas... Du coup, on est dans une solution patient. On n'est pas dans une solution co. Et pour les pros, sur ce modèle économique, on faisait payer les professionnels de santé. Donc, du coup, les professionnels de santé voulaient vraiment avoir un nombre fixe de patients par mois. Mais nous, on était incapables de pouvoir leur dire qu'ils auraient X temps de patients par mois. même au-delà de toute espérance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler les patients qu'on envoie à nos pros. C'est le patient qui choisit son professionnel de santé. Il y avait forcément des infirmiers qui avaient énormément de soins parce qu'ils étaient bien localisés, parce qu'ils acceptaient plein de soins. Et puis d'autres qui étaient beaucoup moins sollicités. Et en fait, on s'est rendu compte d'un point de se dire, non, mais on ne veut pas devenir ça. On n'est pas un Uber, on n'est pas, je ne critique pas du tout Uber non plus, mais on n'est pas un Uber des soins. On ne uberise pas les professionnels de santé. Du coup, on a vraiment changé de modèle en se disant, nous, on veut vraiment reprendre la source et la jeunesse de l'Ibéro, c'est accompagner les patients. Et donc, dans ce cadre-là, donc on a créé plutôt un modèle B2B, dans lequel le but, c'était d'accompagner plutôt les établissements de santé à faire sortir les patients correctement. Donc, tu vois, le changement entre le tout début, qui était plutôt une plateforme B2C,
ouais. Qui est assez commun comme pivot, finalement.
Qui est tout à fait commun comme pivot et qui est important aussi de poser à un moment donné quand tu...
Ouais, et puis je pense que ça permet d'avoir une première traction de base, de tester le modèle, et puis après aller démarcher son premier partenaire B2B, c'est un bon argument.
Exactement. Et du coup, nous avons approché des établissements de santé qui étaient vraiment hyper enthousiastes à l'idée de pouvoir faciliter les sorties d'hospitalisation, diminuer les durées moyennes de séjour, sécuriser les retours à domicile. Sauf que le problème des hôpitaux, publics, malheureusement, n'avaient pas forcément identifié une enveloppe budgétaire pour les sorties d'hospitalisation. Donc, on se retrouvait dans un entre-deux, entre se dire, alors, on veut un modèle B2B, mais les hôpitaux sont pas forcément prêts, ils sont hyper dans l'attente de ce type de solution, mais par contre, ils sont pas prêts à payer. Bref. Donc, forcément, on a beaucoup travaillé, on a essayé notre écosystème, c'est de comprendre comment dans cet écosystème santé en France on pouvait développer un modèle économique pérenne. Et donc on a commencé à échanger avec des laboratoires pharmaceutiques sur l'accompagnement des patients sur des pathologies en particulier. Et donc on a fait des premiers partenariats avec des laboratoires. Là, j'essaye de te faire un historique au fur et à mesure. On a commencé à faire des premiers partenariats sur des pathologies chroniques qui permettaient finalement aux patients d'être accompagnés par nos coordinateurs de soins en interne qui utilisent nos outils pour mobiliser des professionnels de santé adaptés au domicile du patient. Donc là, on revient vraiment sur notre vraiment genèse d'accompagner le patient, valoriser la place des professionnels de santé dans l'écosystème de soins et faciliter l'accès aux soins et la santé partout et pour tous.
Ok, mais ça a évolué parce que du coup, là, on ne les retrouve plus du tout, les labos pharma, dans votre proposition de valeur aujourd'hui. Il y a les entreprises, les établissements hospitaliers et puis les assurances mutuelles, c'est ça?
Alors, si, ils y sont. Ils y sont bien, les laboratoires pharmaceutiques. C'est plutôt des partenaires, c'est des entités qui nous accompagnent tout à fait. Donc, oui, ils nous accompagnent énormément. On a, du coup, effectivement, aujourd'hui, en 2021, après une année de forte croissance chez Libéro, on a identifié vraiment trois axes sur lesquels on accompagne trois types d'acteurs. Donc, effectivement, les établissements de santé, les entreprises avec les assurances et mutuelles, parce que c'est quand même assez lié, ouais. En fait. Et du coup, les labos pharma.
D'accord. OK. Et donc, pour comprendre un petit peu, les entreprises, dans quelle partie de l'équation se situent-elles? J'imagine qu'il y a un gros souci d'employés aidants qui sont fatigués et qui ne peuvent pas travailler de la bonne manière. Mais concrètement, comment vous les avez démarchés au tout début? Est-ce que vous aviez des chiffres comme quoi vous alliez les décharger d'une charge mentale, les améliorer leur état de santé? Comment ça s'est passé?
Alors, pour les entreprises, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la prévention et le sujet de la santé. Le sujet de la prévention, il peut toucher effectivement tout type de personnes. Et par exemple, on le voit bien sur la vaccination, le dépistage, ou même la vaccination antigrippale. Ça, c'est des sujets de prévention. Donc, les bilans de santé aussi en entreprise, voilà, c'est des sujets de prévention sur lesquels on peut tout à fait accompagner une entreprise pour mobiliser des professionnels de santé, pour faire des vacations d'accompagnement de collaborateurs qui souhaiteraient avoir des actions de prévention effectuées par un infirmier, par exemple, sur site. Et les actions de santé, c'est effectivement dans le cadre où un collaborateur ou qu'il soit proche aidant ou lui-même patient, on peut tout à fait accompagner ces personnes-là dans l'organisation des soins au domicile du patient lui-même, du collaborateur lui-même, ou d'un proche aidant de ce collaborateur qui ouais. pourrait finalement lui faire gagner du temps et le soulager au quotidien.
Mais ça, c'est un gros marché aujourd'hui. Il y a 22%, enfin c'est vous qui le mettez, moi j'avais travaillé un petit peu là-dessus pour un projet lié aux patients, enfin aux aidants de patients atteints d'Alzheimer. Il y a 22% des salariés français qui ont un rôle d'aidant, c'est énorme. Et vous, c'est un créneau qui vous intéresse, c'est ça?
Alors oui, alors il y a d'autres acteurs qui sont sur la santé, la santé aux aidants et l'aide aux aidants depuis très longtemps. Hein. Donc nous, on apporte une brique très santé, très prévention, une brique complémentaire à ces acteurs-là. Et en effet, dans le cadre, comme on le voit bien là récemment, les entreprises vont et ont déjà mis en place des actions de santé très fortes auprès de leurs collaborateurs. Et effectivement, ce sont des axes qu'on va développer dans les mois à venir.
Et comment vous êtes structuré du coup en interne pour pouvoir couvrir autant de segments différents? Alors, ils sont très liés, mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il y a des équipes qui sont chargées d'aller démarcher des établissements hospitaliers? Est-ce qu'il y en a qui s'occupent des entreprises et d'autres, des assurances mutuelles en même temps?
Alors oui, on a structuré notre équipe en ce sens, avec des expertises bien, bien identifiées en interne. Donc oui, il y a ces trois types d'acteurs qu'on sollicite, qui nous connaissent maintenant. Et au final, on propose pour tous les mêmes compétences, c'est-à-dire de mobiliser, de coordonner la mobilisation de professionnels de santé pour faire un acte sur un lieu. Donc, au final, la proposition de valeur forte proposée est la même pour tous. Le seul point, c'est que le contenu et la manière parfois de le faire changent en fonction des acteurs. Donc, je suis d'accord avec toi que, bien sûr, on identifie trois choses différentes, hein, trois entités différentes. Mais en interne, c'est bien divisé en ce sens, en termes de dans notre CRM, dans notre... dans notre canal d'acquisition, que ce soit en termes de marketing ou en termes de réseau de prospects ou de leads identifiés. Donc oui, ça nécessite une très très bonne organisation et synchronisation entre les équipes, ça c'est sûr. Mais effectivement, c'est le cas. Il y a trois différents canaux.
En termes de professionnels de santé, votre principal canal d'acquisition, ça reste quoi? Est-ce que c'est une très grosse part de SEO, SIA, vous allez faire beaucoup de pubs pour aller chercher ces professionnels de santé, ou est-ce que vous passez par d'autres canaux plus gros qui vont permettre d'en avoir une base plus consistante d'un seul coup?
Alors, aujourd'hui, on a plus de 18 000 professionnels de santé, donc c'est vrai qu'on insiste aussi auprès de nos pros qui sont engagés dans la communauté de manière gratuite. Hein, maintenant, enfin, les pros s'inscrivent gratuitement depuis plus de 2 ans, donc c'est un engagement personnel, un engagement professionnel. Et on a beaucoup de bouche à oreille, donc des professionnels maintenant qui s'inscrivent parce qu'ils ont entendu parler de nous. Donc, une acquisition plutôt finalement naturelle, avec quelques parfois boosts d'acquisition grâce à effectivement des campagnes d'acquisition, que ce soit sur les réseaux sociaux par exemple ou via des campagnes SMS.
D'accord, ok. Campagne SMS, intéressant ça. Je n'avais jamais entendu parler comme canal d'acquisition. Alors, j'avais entendu parler comme outil pour l'adhérence au traitement, mais comme jamais comme... Et pourtant, je crois que c'est un outil qui a un énorme taux d'ouverture en termes d'acquisition, le SMS, alors que plus personne l'utilise, c'est marrant. Et pour comprendre un petit peu, vous avez financé ça comment et à quelles étapes vous avez dû voilà, faire intervenir des investisseurs si vous l'avez fait?
Alors au tout début, donc quand on a cofondé la société avec Jean-Christophe, on était sur nos fonds propres à nous, donc l'argent qu'on avait mis de côté, le chômage et autres. Et ensuite, on a fait assez rapidement en 2016. Donc moi, j'ai déposé les statuts en décembre 2015 et voilà. Juin-juillet 2016, donc 6-7 mois après, on a fait une première levée de fonds avec des business angels d'environ 100 000 euros. Et on a aussi sollicité des financements de la région, des financements du coup d'amorce, ce qu'on appelle finalement
l'amorçage.
D'amorçage. On a été lauréat aussi de prêts d'honneur. Donc voilà, c'est vraiment des financements qui sont très accessibles. Ils demandent du temps, c'est sûr, à effectuer. Les dossiers sont très lourds. Mmh. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir Jean-Christophe dans ces cas-là à mes côtés pour pouvoir remplir ces dossiers. On a aussi été accompagné par d'autres acteurs pour pouvoir le faire. Mais c'est vrai que vraiment, il y a du financement à partir du moment où on a déjà commencé à prouver quelque chose. Donc ouais. C'est important quand même d'identifier avant de se lancer, de mettre un petit peu de côté pour s'assurer qu'on ne va pas se retrouver dans une situation critique à un moment donné. Et du coup, on stresse par rapport à cette crainte-là de ne pas avoir assez de trésorerie pour se maintenir.
Et puis, c'est l'avantage d'être des financements non dilutifs.
Oui.
Donc, quand on débute, on n'est pas obligé de cramer une grosse part de son capital pour avoir un tout petit peu d'argent.
Oui, exactement. Et c'est des montants qui peuvent quand même être assez intéressants dans le cas où, par exemple, nous, c'est vrai qu'on est dans un secteur de la santé avec des enjeux très importants qui ont un impact réel sur le territoire, sur la vie des gens, en fait. Donc,
ça se vend bien en termes de bourse et de prêts, quoi.
Bah, c'est très impactant et c'est ce qu'on veut aussi, hein. Donc,
oui.
On ne ment pas, mais c'est sûr que c'est vrai que oui, forcément, on a des financements qui peuvent vraiment aider pour le développement, pour embaucher les premières personnes, les deuxièmes, les troisièmes. Et puis ensuite, en 2017, on a fait une deuxième levée de fonds qui était beaucoup plus importante pour vraiment booster le recrutement de l'équipe, enfin de plusieurs personnes de l'équipe, où là on a fait plutôt 1,1 million d'euros de levée de fonds avec du coup des business angels et un fonds.
Donc en seed directement.
En seed, tout à fait.
Ouais. Ok, ça marche. Et donc depuis, vous vivez avec ce montant-là et puis votre chiffre d'affaires. En 2019, j'avais retrouvé, vous faisiez 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Et j'imagine qu'avec la crise, ça a été boosté. Donc en 2021, est-ce que tu as des chiffres ou pour 2020 du moins à partager ou...
Alors oui, on a fait un petit peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Donc ça a vraiment boosté, le Covid a vraiment boosté notre activité. Au-delà de ça, on ne veut pas que le Covid, et comme toute société pérenne, on veut des activités, on veut s'imposer dans l'écosystème par rapport à ce qu'on a fait dans le cadre du Covid, avec donc les hôpitaux, continuer à accompagner les hôpitaux, continuer à accompagner les entreprises, continuer à accompagner des patients dans le cadre de parcours d'accompagnement et avec les laboratoires. Et du coup, ça, c'est vraiment des axes sur lesquels on veut continuer à travailler au-delà du Covid, bien sûr.
Ouais. Et donc, concrètement, ça se passe comment? Tu vois, parce que les plateformes, généralement, ça fait un peu peur à tout le monde, aux professionnels, à tous ceux qui sont sur le terrain. Et vous, comment vous allez mettre de l'humain dans vos relations avec à la fois les professionnels de santé et puis les hôpitaux, par exemple? Est-ce que vous allez avoir des customer success qui vont s'occuper de la relation avec les professionnels de santé ou des key account managers qui vont gérer la relation avec les hôpitaux?
Alors aujourd'hui, avec les hôpitaux, ben, on a une équipe projet déjà qui s'occupe du lien aussi entre les partenaires clients et nous. Donc effectivement, avec des suivis très hebdomadaires et de manière mensuelle, bien sûr. Et en fait, la présence, là, en ce moment, c'est un peu compliqué d'aller en physique dans les établissements de santé, ce qui d'ailleurs, et on voit bien, manque parfois au bon usage du produit, au bon usage du service. Mais c'est pas forcément tout de suite le modèle qu'on souhaite faire, parce que finalement, nos outils sont assez. Le but, c'est qu'ils soient très simples d'utilisation. Donc, l'usage. Et assez facile. Et après, c'est un bouche à oreille interne dans les hôpitaux qui nous permet finalement d'être utilisés par un grand nombre de personnes. Donc, pour l'instant, on a surtout beaucoup des chefs de projet qui pilotent le bon usage des outils, ce qui nous permet d'avoir des bons feedbacks pour améliorer
Okay.
les process.
Et en termes de développement futur, vous parliez de partir à l'étranger, au Canada, au Portugal, ou au Benelux. Est-ce que, enfin moi, déjà le choix de ces pays m'intéresse parce que généralement c'est pas les, en termes de développement à l'étranger, c'est pas les premiers marchés, même en Europe. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que vous avez shifté sur une autre verticale?
Oui, alors oui, l'international et notamment les pays d'Europe sont pour nous une projection intéressante. C'est vrai qu'on a identifié, alors le Canada, c'est vrai qu'on l'a identifié comme un vrai marché intéressant parce que la santé, l'accès à la santé dans ce pays est assez particulier parce que c'est un grand, grand pays avec très peu de villes. Donc voilà, il y a un sujet d'accès aux soins qui est assez fort. Mais sinon, on a identifié d'autres pays par ailleurs, mais les autres pays que tu as mentionnés, effectivement, font partie de notre liste de pays à identifier comme déjà, il faut faire une étude de marché, il faut voir la réglementation sur place, on ne la connaît pas par cœur, on ne connaît pas encore très très bien tous ces pays-là, mais en tout cas, par rapport à de ce qu'on fait aujourd'hui, de ce qu'on a pu prouver la dernière année passée, on est en capacité de pouvoir dupliquer un modèle dans d'autres pays.
D'accord. Ok. Et donc ça, c'est à quel horizon, si tu peux
Là,
partager?
franchement, c'est toujours difficile à se projeter parce que franchement, le Covid, on ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps et tu vois, on y est encore. Là, je préfère pas dire quoi que ce soit parce qu'au final, on ne sait jamais. Donc, mais dans prochain, dans, ouais, dans parlant de moi plutôt.
D'accord, ok. Et donc là, est-ce que vous allez avoir une approche beaucoup plus stratégique qu'au début, parce que vous avez déjà un peu identifié les principaux canaux on va dire, d'acquisition. Est-ce que tu as des éléments à partager sur l'ouverture d'un nouveau pays?
Déjà, le vrai sujet, c'est de comprendre la réglementation. Donc,
Ouais.
par exemple, est-ce qu'il y a des systèmes de sortie d'hospitalisation, par exemple, existants? Est-ce que les infirmiers, enfin la manière dont travaillent les professionnels de santé en ville, de quelle manière ils sont réglementés? Est-ce qu'ils sont aussi rémunérés par une sécurité sociale nationale ou pas? Est-ce que c'est que du privé? Est-ce que, tu vois, déjà tout ça, de comprendre tout ça, déjà, c'est par pays, ça va être très challengeant. Et puis de comprendre le besoin aussi. Identifier peut-être plus des villes pilotes dans un premier temps, avec effectivement des canaux d'acquisition assez identiques selon les pays, enfin les réseaux sociaux, enfin il faut faire très simple avec les professionnels de santé parce qu'ils n'ont pas le temps et l'énergie de passer du temps au téléphone ou de temps à lire des mails. Donc il faut être assez efficace dans les canaux d'acquisition.
Ouais.
Et pour ça, je pense qu'on peut tout à fait dupliquer les mêmes qu'on a utilisés pour la France.
Ok. On arrive vers la fin de nos discussions, Florence. Généralement, je pose quelques questions à mes invités. Selon toi, quelle était la plus belle réussite de l'aventure Libéraux jusque-là? Parce que ça fait un moment quand même.
Ouais, ça fait un moment. J'en ai plein quand même.
Elle est dure celle-là, surtout que tu l'avais pas avant.
Non, elle est. Et puis c'est vrai que j'en ai tout de même plein parce qu'en fait.
Choisis-en une ou deux.
Là où j'étais vraiment. Alors, très récemment, on va dire que là où j'étais hyper fière de tout le travail accompli et qu'on arrive à là, c'est quand on a été titulaire d'un marché de l'APHP, notamment. Et moi qui viens de l'APHP et qui ai travaillé dans les hôpitaux, et voilà, et j'étais super, vraiment honorée et fière de pouvoir travailler en partenariat avec l'APHP. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Et l'autre point, je crois que c'est quand on a fait, quand on a déménagé notre premier déménagement. Bon, on vient de redéménager, mais quand on a fait un premier déménagement, quand on est parti de notre incubateur où on était collés, serrés entre nous, et quand on s'est dit déménage, on arrive dans de nouveaux bureaux à nous, c'était un vrai step aussi. C'était vraiment cool pour l'équipe. Ça,
tu sens que tu te lances, quoi.
Ouais. Et puis pour tout le monde, enfin, on sent que ça change beaucoup.
Plus à la maison, ok.
Ouais.
Et si tu devais repartir à zéro et donner un conseil à Florence qui se lance, voilà, t'es encore infirmière, tu pratiques encore, et est-ce que tu voudrais lui partager quelque chose comme conseil?
Oui, il y a un, je sais pas qui l'a dit, mais en gros, c'est si tu lances. Si ton produit est parfait quand tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, il faut aller beaucoup plus vite sur l'utilisation de ton produit et ton outil. Parce que comme ça, beaucoup plus vite, tu le changes, beaucoup plus vite, tu trouves un modèle économique adapté. Voilà, peut-être que je dirais, en gros, vas-y, teste.
Je pense que c'est quelque chose où vous avez un peu pêché, vous avez mis trop de temps à développer.
Oui, parce qu'on voulait vraiment avoir quelque chose de très adapté. Alors, sécuriser en données de santé, ça on ne peut pas l'enlever, même si on avait fait du beaucoup plus rapide. Voilà. Je pense que oui, on a été un peu freiné par nos compétences respectives en tant que cofondateurs. On n'était pas du tout tech, hein, donc voilà. Je pense que ça nous a un peu manqué. C'est de nous entourer très, 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 très vite de quelqu'un qui a une vision tech. Et je pense ce premier point de...
Ok.
Je me dirais ça.
Je pense que c'est un bon conseil. Florence, merci à toi d'avoir partagé ton expérience et puis ces conseils, tous ces insights sur Libero. Moi, je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste.
À bientôt.
À bientôt.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.